Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des anges à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre.
Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie d'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux.
Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, si Ésaü vient encore, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver.
Jacob dit...
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va faire en plusieurs fois. Okay. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression « traîner des casseroles » quand quelque chose que vous avez fait dans le passé vous suit partout et vous pouvez pas vous en détacher de ça. C'est comme les casseroles, blim, blam, blum, blim, on vous voit, on entend le bruit. Ou est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous devez assumer vos fautes? Dernièrement, l'actualité a été dramatique et vous avez sans doute entendu parler de cet ado dans un collège qui a, ou au lycée, je sais plus, qui a tué son professeur d'espagnol. Et il a dit juste après, j'ai bousillé ma vie. Il devait, à partir de ce moment-là, assumer cette faute qu'il avait faite. Il y a une autre expression qui est employée, c'est également être au pied du mur. Il y a devant nous quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ni contourner. On ne peut pas ni aller à la droite, ni aller à gauche, ni reculer. On est face au mur, on est au pied du mur. Et il faut l'affronter, pas moyen de s'échapper. Alors que faire dans cette situation? Et on voit que Jacob, on le connaît maintenant depuis qu'on a lu son histoire. Et il avait bien des casseroles de son temps. Une réputation de tricheur, de vouloir passer devant, de calculer pour toujours tirer son épingle du jeu. Dès sa naissance, il est né, il s'était accroché déjà au talon de son frère jumeau. Et il était en conflit dès le ventre de sa mère, nous dit l'Écriture, il se disputait avec lui. Étant adulte, il avait trouvé la solution pour saisir l'opportunité de lui acheter son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, quelque chose qui était, voilà, il avait sauté cette opportunité-là. Et cette opportunité le suivait partout, et jusqu'à ce jour, quand on parle de Jacob, on pense à quelqu'un qui trompe. Des casseroles. Et il avait aussi une grave faute à assumer. C'était pas quelque chose comme un crime, c'était quand même... pas à ce niveau-là, mais cette obsession d'être toujours, d'avoir le devant sur son frère, l'avait conduit à faire une énorme bêtise. Il avait trompé son propre père. Il s'était fait, vous savez, passer pour son frère jumeau. Il avait profité du fait que son père était aveugle. Il avait abusé de lui pour voler la bénédiction de son frère. Et c'est ce qu'il avait fait. Et ça l'avait, pour le coup, provoquer un drame familial. Jacob avait dû fuir dans la précipitation son foyer pour sauver sa vie, tant il avait provoqué la haine de son frère Ésaü. Jacob était donc au pied du mur à ce moment-là aussi. après 20 ans passés chez son oncle, là où il avait épousé une de ses filles, donc c'était à la fois son oncle et à la fois son beau-père, il s'appelait Laban, et il avait quitté Laban, Dieu lui avait dit de rentrer chez lui, mais il avait quitté Laban sans dire au revoir, en cachette, comme ça, il était parti, après 20 ans de présence chez lui, et ça avait mis Laban en fureur, et l'histoire précédente, il nous avait mis un stèle, et ils étaient convenus qu'il ne devait pas revenir en arrière. Jacob n'avait qu'une seule direction à suivre, affronter son frère Ésaü, le rencontrer face à face. On a lu dans notre histoire, il y avait un troisième protagoniste. C'était Dieu lui-même. Il est devant le camp de Dieu. Dieu s'est invité dans la partie. Et à ce moment-là, dans notre texte, Jacob n'a pas du tout la crainte de ce camp de Dieu qui est devant lui. Non, sa crainte se focalise sur son frère Ésaü. Et les nouvelles sont pas bonnes. Ésaü arrive à lui avec une troupe de 400 hommes, certainement des serviteurs d'Ésaü, certainement peut-être sa belle famille, des amis, ou probablement aussi des mercenaires recrutés pour l'occasion. Les mercenaires, ça se paye sur la bête, hein. Et c'est une troupe très conséquente, en tout cas, qui venait à lui, et Jacob sait qu'il est perdu. Alors, un bon calculateur, il sépare en deux son camp pour en sauver la moitié, puis il cherche le secours de Dieu. Dans notre texte, présente la prière donc de Jacob. Donc, Jacob dit:
Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. La mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter.
C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Donc c'est la deuxième prière de Jacob que la Bible nous rapporte. 20 ans auparavant, Jacob était dans la même situation, dans la détresse. Il fuit à ce moment-là vers son oncle, qu'il n'avait jamais vu, qui habitait à 600 km de là, et il n'avait que sa chemise sur lui. Il avait eu alors la vision d'une échelle et un escalier qui montait vers Dieu. On peut le voir de différentes façons. Mais l'important, c'est que Dieu lui avait fait une promesse. Celle qu'il avait faite à Abraham et à Isaac, son père, lui donner le pays de Canaan, une innombrable postérité, et d'être une bénédiction pour tous les êtres humains. À ce moment-là, il n'avait pas vraiment prié, mais il avait fait le vœu, il avait déclaré que si le Dieu de son père le ramenait chez lui, sain et sauf, alors l'Éternel serait son Dieu. Ça, c'était 20 ans en arrière. Et 20 ans après, il est toujours dans la détresse et il prie. C'est souvent dans la détresse que l'on cherche Dieu. C'est pas un scoop, c'est quand on est coincé, qu'on arrive à nos limites, qu'on se tourne vers lui. On voit que c'est une prière qui a été exaucée dans la suite du passage, donc c'est important de regarder cette prière, comment elle est faite. Et en cela, la Bible nous laisse un modèle de prière. Versets 9 et 10. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. La reconnaissance. La reconnaissance à Dieu pour sa protection, pour ses bénédictions. Et c'est ainsi que Jacob commence sa demande. Il exprime une profonde reconnaissance. Ensuite, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Isaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Donc là, il fait la demande, une demande claire. C'est pas des formulations un petit peu générales comme ça. C'est une demande claire qu'il fait. Et ensuite, cette demande, il la base sur les promesses de Dieu. Toi, tu l'as dit, je te ferai du bien. Je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saurait le compter. Et s'il doit avoir une postérité abondante comme le sable de la mer, cette postérité a bien sûr doit être protégée et Dieu doit venir maintenant au secours de la famille de Jacob. Reconnaissance, une demande claire qui est basée sur la promesse de Dieu. C'est une prière donc qui a été exaucée. Maintenant, Jacob va quand même prendre des initiatives. L'un n'empêche pas l'autre, on dit. Hein. Et donc, ce sera moi dans la suite de notre texte. Verset 13. Jacob prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qui allaitent, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs,
passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau.
Il donna cet ordre au premier.
Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous.
Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux.
C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous.
Car il se disait à lui-même,
je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement.
Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le Torah, les fit passer à tout ce qui lui appartenait, et Jacob demeura seul. Donc, la prière n'est pas incompatible avec les initiatives personnelles. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on voit des hommes de Dieu qui prient et qui agissent par rapport aux prières qu'ils viennent de faire. Et là, Jacob a deux idées. Donc, c'est apaiser son frère par des cadeaux. Et il a prévu de faire ça progressivement. Un troupeau qui arrive avec un message, puis un autre troupeau qui arrive avec le même message, puis un autre troupeau qui arrive. Et donc, avec l'idée de petit à petit d'apaiser son frère Ésaü avant cette rencontre. Et il a aussi une autre idée là, c'est de faire passer sa famille devant lui. Les troupeaux passent et puis aussi, là la famille va passer devant. Alors, il fait ça la nuit, je ne sais pas pourquoi, la nuit il fait passer en cachette sa famille, il fait passer le gué, et puis il les installe là de l'autre côté, puis lui il reste en arrière, de l'autre côté du gué, seul. Alors là, il me semble qu'on a le mal dans toute sa splendeur. Hein. Il fait passer le guet à sa famille et puis lui, il reste de l'autre côté, à l'abri. Les hommes font souvent cela. Ce sont des égoïstes qui pensent premièrement à leur intérêt et deuxièmement à leur famille. Alors voilà la situation que l'on a à ce moment-là. Mais Dieu est là et il va intervenir de façon surprenante dans la suite du récit. Verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à la moiture de la hanche. Et la moiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. »
« Je ne te laisserai point aller que tu me bénis. »
« Quel est ton nom ?»«
Jacob. »
Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant,
« Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. »«
Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu. Ah, pardon.
J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée.
Le soleil se levait lorsque il passa Péniel. Et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, souvenons-nous, par ce passage, le camp de Dieu est aussi en face Jacob, celui dont on parlait au début. Jacob a péché contre son frère Ésaü en lui volant sa bénédiction. Mais la parole de Dieu enseigne que pécher contre son prochain, c'est premièrement pécher contre Dieu. Et Dieu a aussi des comptes à régler avec Jacob. Et Dieu l'attend, là, au guet. Mais Jacob ne comprend pas, visiblement. Un homme vient à lui, et Jacob lutte contre. C'est le premier réflexe, il fait nuit, il y a un homme qui s'approche, c'est forcément un ennemi, je me bats contre lui. Et on peut être surpris que Jacob agisse ainsi et qu'il y ait cette lutte, mais je pense que nous aussi on fait souvent pareil dans nos problèmes, dans nos épreuves. On peut en arriver à se battre contre Dieu lui-même. On se bat contre ceux qui s'en mettent de l'opposition. Et c'est contre Dieu lui-même que l'on se bat, qui se met en travers du chemin. Il veut nous arrêter, mais on s'obstine. On est têtu et on ne lâche pas le morceau, comme on dit. Et là, il y a une chose surprenante qui se produit. Dieu se reconnaît comme perdant. Il met la fin au combat et il exécute ce que Jacob lui demandait. Moi, je réfléchis à ça et je pense que Dieu ne peut pas nous vaincre par la force. Il ne veut pas nous vaincre par nos propres armes, par nos propres outils, sur le terrain sur lequel on veut le conduire. L'homme est pécheur dans sa nature, et dans sa nature pécheresse, Dieu ne peut pas le rejoindre. La lutte telle que nous la pratiquons dans toutes nos relations, vous savez, on dit qu'on se frite contre nos concitoyens, dans nos relations de tous les jours, au travail, des fois dans les familles même, on a des frictions, on se frite, on a des, des zones ici d'intimité et les gens ne peuvent pas rentrer dedans sans qu'ils sortent à nous. Mais c'est là que l'on voit la mesure qui sépare nous-mêmes de la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas sur ce terrain-là. Dieu met fin au combat et pourtant c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est l'homme fort. Il met fin au combat et on voit qu'il est le plus fort parce qu'il lui suffit de toucher la hanche de Jacob pour que le combat s'arrête. Dieu fait ce que Jacob lui demande et il le bénit dans notre texte. Alors c'est quelque chose qui semble tellement incompréhensible. Malgré les apparences, je pense que c'est Dieu qui a la victoire. Pourquoi c'est Dieu qui gagne dans ce combat tout en perdant? Parce que Jacob va ressortir transformé de ce combat. D'abord, il reçoit un nouveau nom. Ça n'est fini de l'ancien Jacob. Place au nouveau Israël. Ésaïe va rencontrer un frère qu'il ne connaissait pas. On pourra reparler de ça plus tard puisque ce sujet va revenir. Un nom nouveau qui ne va pas sonner les casseroles. Il est également, il va avoir un corps transformé. Et il boite désormais et toute sa vie, il va se souvenir de cette rencontre avec Dieu à travers le fait que maintenant il est boiteux. Et son cœur également est transformé, comme le montre la suite de notre récit. Jacob va en effet être gracié. Voyons la suite de notre texte. Avec cette fameuse rencontre avec Ésaü maintenant. Jacob leva les yeux, Genèse 33, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Et verset 3, lui-même passa devant eux. Et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit :
Qui sont ceux que tu as là ?
Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur.
La servante s'approchèrent, elle et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et Ésaü dit :
À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?
À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur.
Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi.
Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien.
Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit :
Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi.
Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séir.
Ésaü dit :
Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens.
Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur.
Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette déclaration du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 4, résume bien, je crois, la situation. On voit un Jacob boiteux qui passe devant. Il n'est plus derrière, seul. Tout le monde devant, moi, seul à l'abri. Non, il passe devant sa famille. Il se met à la tête. Et Ésaü voit venir à lui son frère boiteux, qui se prosterne cette fois en signe d'un profond respect, le respect qu'on doit à des rois, paraît-il, à cette époque-là. Et cela a dû toucher Ésaü, son frère, que de le voir ainsi boiteux, son frère boiteux, se prosterner devant lui. On dit que Jacob n'a jamais aussi bien marché que quand il était devenu boiteux. Jacob boiteux passe devant. Jacob tient à réparer sa faute. Le premier objectif qu'il avait avec ses cadeaux qu'il envoyait, c'était là, voilà, faire baisser la pression, apaiser son frère avant de pouvoir le rencontrer. Et l'objectif est parfaitement rempli, mais Ésaü lui dit, je n'ai pas besoin de tous ces cadeaux. Et Jacob insiste, il veut faire réparation de sa faute. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il a séparé son camp en deux, et la moitié du camp est pour Ésaü. En quelque sorte, il restitue la bénédiction qui a été volée. Il avait volé à Ésaü sa bénédiction et il lui restitue la moitié ici, sera pour Ésaü. Et il insiste. Et Ésaü va accepter. Jacob montre qu'il a changé, parce qu'il s'humilie devant son frère. C'est Ésaü l'aîné. Et lui, Jacob lui montre du respect et de la soumission. Il se remet à sa place. Et on le sent vraiment sincère dans toute sa démarche ici. Il n'y a pas de calcul derrière. Il veut vraiment honorer Ésaü, son frère. Et simplement pouvoir le regarder face à face. Jacob montre qu'il a changé. Et l'autre élément important du récit, c'est que Ésaü fait grâce à Jacob. Il fait preuve lui aussi d'humilité en acceptant ce cadeau. Il cède également, on le voit, à toutes les demandes que lui fait Jacob. Ok, ça va. Et finalement, la dernière phrase, les derniers échanges, on voit que il laisse son frère libre à la fin. Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Ésaü reprend le chemin comme il était venu et il ne demande plus rien à son frère Jacob, pas de l'accompagner, pas qu'il soit rien. Jacob va être complètement libre. Ésaü fait une grâce complète à Jacob. Jacob est libre à la fin, libéré de cette faute qu'il avait commis 20 ans auparavant. Alors, conclusion de notre récit. Je dirais par rapport à nos casseroles, à nos bêtises à assumer, en ce qui concerne notre côté, il faut penser à la réparation. Il faut penser à l'humilité, à la repentance sincère. Ça, c'est ce qui concerne de notre côté. Et puis, il y a de l'autre côté de Dieu. Craindre Dieu plus que les hommes, je crois que c'est la clé de la réussite pour la vie chrétienne, avoir la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Prier selon les promesses de Dieu et faire attention de ne pas nous tromper d'adversaire, de ne pas se retrouver en train de lutter contre Dieu lui-même qui se met en travers de notre chemin. Et on peut être aussi du côté de l'offensé, comme Ésaü, qui était l'offensé, et là, il est un modèle de pardon, Ésaü. Il fait grâce à son frère, et il le rend libre. C'est quelque chose, on sait pardonner, on sait, mais pour libérer complètement la personne de la faute qu'elle a commise, un pardon plein et entier. C'est ce que fait Ésaü ici, et je crois que c'est pour nous un exemple quand on est du côté de l'offensé. Et je vous propose aussi un autre enseignement à méditer. On l'a vu dans sa lutte avec Jacob, Dieu a accepté de perdre pour gagner Jacob. L'objectif de Dieu n'était pas d'avoir la victoire sur Jacob, qu'il se soumette à lui, qu'il fléchisse le genou devant lui. Non, l'objectif c'était de le gagner. Et Dieu a accepté de perdre pour gagner Jacob. Jacob aussi a accepté de perdre la moitié de ses biens pour gagner la réconciliation avec son frère. Jésus-Christ aussi a accepté de perdre face aux pharisiens, face aux chefs religieux de sa nation. Il a accepté de perdre parce que c'était nécessaire pour les gagner. Il en a gagné certains, et pour nous gagner, nous, 2000 ans après, Jésus-Christ a accepté de perdre. Je crois que dans nos relations mutuelles, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans notre texte, les relations entre deux frères, dans nos relations mutuelles, nous devons aussi apprendre à perdre pour gagner autrui, notre frère, à perdre pour gagner une personne à Jésus-Christ. Voilà les quelques conclusions que je voulais vous partager par rapport à ce texte. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'on ne comprend pas tout et qu'elle est parfois si étrange et fascinante et incompréhensible. Seigneur, tu es grand et nous ne sommes que des créatures. Mais tu te révèles à nous pour nous transformer, pour nous ramener de pécheurs que nous sommes à ton inaccessible lumière. Seigneur, change nos cœurs comme tu l'as changé, Jacob, par le moyen que tu trouveras beau. Change nos cœurs, Seigneur, pour qu'ils ressemblent à ce nouveau Jacob face à son frère Ésaü. Transforme nos vies, Seigneur, comme tu l'as transformé. Interviens comme tu es intervenu. Merci, Seigneur, pour la possibilité de te prier selon ta parole, selon tes promesses. Et Seigneur, tu as dit que la postérité de Jacob serait une bénédiction pour toutes les nations, et nous voulons nous aussi être au bénéfice de cette bénédiction. Merci pour ta bénédiction qui surpasse toute autre bénédiction, et pour l'œuvre que tu as déjà commencée dans nos vies et que tu vas rendre parfaite pour ce jour-là, le jour du retour de Jésus. Garde ton Église, Seigneur. Veuille nous diriger maintenant dans tous les choix que nous pouvons vouloir faire ensemble. On en a parlé tout à l'heure. Garde-nous dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.